Bon, donc on va commencer cette soirée. Il est prévu que nous écoutions, comme d'habitude, deux exposés. Attendez, il ne veut pas tenir. Donc, c'est Irène Tuton, qui est donc analyste à Paris. La plupart d'entre vous la connaissent, qui va commencer. Et ensuite, Philippe Madet, qui est de Bordeaux. Voilà. Alors, Irène,
sous le titre « Analysant, deux points, une éthique de la psychanalyse, point d'interrogation ». Voilà, je serai mieux avec le micro. Donc, oui, mon titre, donc, c'est « Analysant, deux points, une éthique de la psychanalyse, point d'interrogation ». Alors, la question que pose le thème de notre séminaire école, « Qu'est-ce qu'un analysant ?», m'a renvoyé à une autre question. Pourquoi Jacques Lacan a-t-il pensé en 1967, à ce moment de son enseignement, que ce signifiant analysant était plus approprié que l'usuel analysé? Qu'est-ce que ce passage apporte à la manière de penser l'expérience analytique? Relève-t-il d'une certaine éthique? C'est donc en 1967 que le terme d'analysant ou psychanalysant apparaît dans l'enseignement de Lacan. D'abord dans un écrit, proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école, puis, dans un même temps, au cours de la séance du 9 novembre 1967 du séminaire « L'acte psychanalytique », dans une transmission orale, si je puis dire. Notre collègue Sol Aparicio en a relevé la dimension politique lors de la première soirée de notre séminaire, rappelant notamment l'excommunication de Lacan par l'IPA en lien avec la fondation de son école. Et je vous renvoie à l'intérêt de ces remarques. Donc c'est dans le mensuel numéro 101, je crois. Comment comprendre ce changement grammatical de temporalité du participe passé au participe présent? Au moment où Lacan interroge la formation du psychanalyste, l'enseignement de la psychanalyse et l'acte analytique. Serait-ce une manière de mieux préciser ce qui revient à chacun, analysant et analyste, un présent comme condition d'entrée et qui perdure jusqu'à la fin, une façon de souligner la nécessaire part active de celui qui s'y engage? À cet égard, je me suis aussi demandé si l'introduction par Lacan de ce terme n'était pas une manière de rendre compte de la difficulté d'un tel engagement, c'est-à-dire du cap à tenir, malgré et à cause de ce qui insiste de symptômes et de jouissances chez le par-l'être. Le participe présent désignerait cette insistance, voire une résistance à l'œuvre tout le temps de l'analyse. Notons également que ce changement intervient au moment où Lacan propose de produire, je le cite, un pas constructif pour son école, ça c'est dans la proposition, notamment concernant le dispositif de la passe. Il s'agit d'une proposition, le terme n'est pas anodin. On peut demander de faire la passe ou pas, on peut demander une analyse et s'y engager ou pas. La question d'un désir se pose ici. Dans le cas d'une demande d'analyse, les séances dites préliminaires offrent un temps pour mesurer ce qu'il en est d'un désir d'engagement de la personne qui formule cette demande. Ce temps, qui est à l'appréciation de l'analyste, est très variable selon les cas. À ce propos, dans la conférence qu'il a prononcée à Genève sur le symptôme, le 4 octobre 1975, Lacan invite les analystes à se comporter dignement, c'est-à-dire sans trop de hâte, afin que la demande puisse prendre forme. Mais encore une fois, les expériences diffèrent beaucoup et elles sont autant d'indications cliniques à prendre en compte. Considérer que ce temps préliminaire à l'entrée en analyse est à l'appréciation de l'analyste pourrait laisser supposer que celui-ci en est l'agent. Or, la clinique nous démontre que cela est plus complexe. Et les développements de Lacan sur l'acte, dans son séminaire « L'acte psychanalytique », donc qui date de 67-68, rendent compte de cette complexité. Selon Lacan, alors bon, je le cite là, « il est sûr que nous rencontrons l'acte à l'entrée d'une psychanalyse, au sens d'un franchissement possible, de se décider à faire ce qu'on appelle une psychanalyse, décision qui comporte un certain engagement de la part du sujet. Pourtant, nous avons fait remarquer que ce franchissement relevait aussi d'une certaine appréciation de l'analyste. Alors comment ce dernier se repère-t-il pour le déterminer, ce franchissement ? À la capacité du sujet d'associer librement, proposition qui lui est faite dès le départ et qui, en tant que telle, offre une possibilité d'ouverture à ce qui échappe à sa maîtrise, c'est-à-dire aux productions de l'inconscient, frayant ainsi la voie à un au-delà de la demande et à ce que celle-ci recèle de désir. Le terme de production revient dans le discours de Lacan au cours de ce séminaire et également dans son écrit de la proposition. L'un des sens qu'il en donne désigne la tâche, le travail qui relève de l'analysant dans le cadre de la cure. À travers ces dits, il s'agit de produire un savoir qu'il ne calcule pas, où il arrive qu'il ne se reconnaisse pas et pourtant qui est sien puisqu'il l'a énoncé. Ceci dans une adresse à l'autre avec un grand A, enfin que j'écris avec un grand A, représenté par l'analyste. Et c'est peut-être dans une méconnaissance, une incompréhension de soi, parfois douloureuse, adressée à l'analyste, que peuvent se produire un franchissement et s'engager un transfert. L'association libre, reposant sur ce principe d'une production verbale de pensée, dont Lacan souligne, je le cite, qu'elle se présente dans son énoncé même comme admettant cette vérité foncière du « je ne pense pas », inhérent au statut du sujet. Alors oui, là, je trouve intéressant que Lacan présente les choses comme ça, parce que par ailleurs, concernant celui qui est à la tâche et le travailleur, ce qu'il dit, c'est qu'il est dans un « je pense ». Donc c'est un « je pense » empreint d'un « je ne pense pas ». Ce que l'on nous demande, il faut l'appeler d'un mot simple. C'est le bonheur, nous dit Lacan dans le séminaire « L'éthique de la psychanalyse ». Il l'écrit à l'occasion en deux mots, « bonheur », et on peut l'entendre comme être au rendez-vous de cette demande. S'y engager pour celui qui la formule, l'accueillir pour l'analyste, c'est-à-dire en prendre acte en connaissance de cause. Pourquoi en connaissance de cause ? Parce que lui, l'analyste, a fait l'expérience de la fin de sa propre analyse, d'un certain désêtre lié à l'évocation d'une vérité portant sur son rapport à la jouissance dans le fantasme et d'un désir empreint d'une perte avec la chute de l'autre supposé savoir. Concernant cette fin, Lacan va jusqu'à parler de désarroi absolu au niveau duquel l'angoisse est déjà une protection. Cependant, cette expérience s'avère très différente d'un sujet à un autre. Comme nous avons pu le constater au séminaire école de l'année dernière, la durée des analyses et ses raisons. Oui, ce que je voulais dire concernant ce que dit Lacan par rapport à cette question de la fin. Enfin, dans ce séminaire L'Acte, il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'il parle beaucoup de comment l'analyste, à chaque fois qu'il reçoit un patient, est dans le commencement, mais par rapport à la fin dont il a fait l'expérience. C'est quelque chose qui revient. Je trouvais ça intéressant. On peut dire que c'est donc avec un désir averti que l'analyste opère, à la différence de l'analysant. L'analyste donne ce qu'il a, à savoir son désir marqué d'une perte, d'une limite, rencontrée au terme de sa propre analyse. Répondre à la demande de l'analysant, c'est, il me semble, répondre de cette place à une nuance près, celle qui inclut dans l'opération l'autre avec un grand A supposé savoir, dit aussi sujet supposé savoir. Celui-ci renvoie à une notion complexe. En effet, j'avais tendance à penser que l'analyste était cet autre-là en tant que l'analysant lui suppose un savoir sur son inconscient. Ce n'est pas tout à fait faux, mais Lacan le définit autrement, relevant au passage le paradoxe qu'il comporte. Celui qui donne support au transfert, je le cite, le sait trop bien qu'il n'est pas le sujet supposé savoir. Alors ça, c'est quelque chose qui martèle dans le séminaire de l'acte. L'analyste n'est pas le sujet supposé savoir, mais qu'il est rejoint par le désêtre que subit le sujet supposé savoir, qu'à la fin, c'est lui, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'analyste, qui donne corps à ce que ce sujet devient sous la forme de l'objet petit a. C'est la position nécessaire de départ, qui nous dit Lacan, qui conditionne l'acte même de l'analyste. Néanmoins, celui-ci se fait le support de cet autre supposé savoir, c'est-à-dire qu'il feint de l'être par le truchement du transfert, qui est donc le point d'orgue de toute analyse. C'est la mise en acte de l'inconscient, d'une certaine manière. Et l'analysant y croit. Cette croyance, il me semble, transcende la personne même de l'analyste. Elle est là, d'avant l'analyse, qui, par le choix de celui qui s'y engage, la met à l'épreuve, l'entame, l'interroge. Ce qu'il en reste après une analyse est une question. Elle a été discutée lors d'une de nos soirées à partir d'une contribution de Miyuki Oishi. Je pense que c'est très variable en fonction des individus, et cela interroge ce temps d'après l'analyse, ce à quoi l'on continue de croire ou ne pas croire. On pourrait situer le paradoxe de la position de l'analyste en ce qu'il se fait le support d'une fonction, celle de l'autre supposé savoir, dont il a saisi une fois le caractère fictif et la portée à la fin de sa propre analyse. Il sait alors que cette fonction est amenée à déchoir et que l'effet de cette opération est au fondement même de son acte, le passage de l'analysant à l'analyste. Le savoir ne signifie pas nécessairement qu'il en a pleinement conscience, mais que cette expérience, dont on peut dire qu'elle est unique, s'est inscrite d'un trait indélébile. Peut-être même qu'il le sait moins qu'il ne l'éprouve. Chaque analyste, dès le début, serait donc touché par ce paradoxe, et l'analysant, dans sa méconnaissance de croyant, le fait consister, à partir de ses dits, de ses silences, de sa présence, au rythme des séances, de ses manques. En d'autres termes, l'analysant serait celui qui produit l'autre supposé savoir et l'analyste se propose comme garant de l'opération. J'ai avancé précédemment, partant d'une remarque de Lacan, que l'acte pouvait se rencontrer à l'entrée d'une analyse, dans le sens d'un engagement du sujet au-delà des séances préliminaires. Or, Lacan note aussi ce que cet acte d'engagement de l'analysant implique chez lui de démission de l'acte. Cela pose la question du statut de l'acte dans la cure, psychanalytique. On a l'idée que la psychanalyse a introduit de nouvelles dimensions de l'acte, fondées sur le champ de la parole et du langage, avec Freud et la talking cure. Essayons de l'éclairer à partir de ce que Lacan qualifie d'acte symptomatique. Il nous intéresse, car le ou les symptômes se rencontrent dès le début d'une analyse dans les plaintes de l'analysant, puis à la fin, comme une réponse possible de celui-ci, voire une solution au traitement d'une jouissance entreaperçue comme énigmatique. Et l'on peut se demander, c'est une hypothèse, si les séances préliminaires ne seraient pas déjà un temps pouvant permettre de saisir, ou au moins de faire apparaître, cette part de jouissance liée aux symptômes. Mais quel rapport y a-t-il entre le symptôme et l'acte ? Alors là, je m'engage sur un terrain pas facile. Je suis pas sûre de moi, je vous mens. Après coup, toujours après coup, hein. Tant pis. C'est comme ça, hein, ce que j'ai écrit. Pour l'acte, il se caractérise particulièrement dans le lapsus de la parole. Jusque là, ça va. Est-ce parce que dans ce cas, un message est donné à entendre qui peut paraître si énigmatique et révélant une équivoque, une faille dans la chaîne du discours, qu'il interpelle et en requiert une lecture dans l'après-coup? Si l'interprétation analytique a sa pertinence, il me semble qu'elle pourrait la trouver dans cette demande de lecture après-coup. Cette notion d'après-coup, présente dans l'œuvre de Freud et mise en relief par Lacan, peut apporter un certain éclairage sur ce qu'est un acte. Alors, ça c'est ce que dit Lacan, que l'acte est dans la lecture de l'acte. Alors, que l'acte soit dans la lecture de l'acte suggère un après-coup et donne l'idée qu'au temps d'avant sa lecture, s'est produit quelque chose qui attend d'être nommé comme tel. Il ne s'agit donc pas d'y ajouter du sens, mais d'y donner corps en le constatant. L'interprétation sera un acte consistant à prendre acte, en quelque sorte, et se situerait alors du côté de l'analyste. Alors, en même temps, ce que dit Lacan, c'est quand même aussi que l'interprétation se vérifie par ses effets. Voilà. Bon, ben voilà, hein. On réfléchit, hein, après. Cela m'évoque le motérialisme dont parle Lacan dans sa conférence de Genève, qu'il associe à la langue. Je le cite. Il est tout à fait certain que c'est dans la façon dont la langue a été parlée et aussi entendue pour telle et telle dans sa particularité que quelque chose ensuite ressortira en rêve, en trébuchement, en toutes sortes de façons de dire. C'est dans ce motérialisme que réside la prise de l'inconscient, ce qui fait que chacun n'a pas trouvé d'autre façon de sustenter le symptôme. Le symptôme apparaît ici comme ce qui, de l'inconscient, se manifeste au niveau du signifiant. L'analyse, et notamment l'interprétation, offre la possibilité d'en souligner la part de jouissance qui revient à l'analysant. Il me semble que cet abord du symptôme peut nous aider à saisir ce qui amène Lacan à considérer Lacan, l'analysant, pardon. Non, mais il dit lui-même qu'il est un analysant, alors après. Donc, j'anticipe. Ouais. L'analysant du côté d'un faire et l'analyste du côté d'un certain laisser-faire. Le premier donne à entendre son symptôme par ses dits. L'autre en prend acte. L'un, dans un « je pense » empreint d'un « je ne pense pas », produit des pensées. L'autre, dans un « je ne pense pas », reçoit, accuse réception, sans en rajouter dans le cas de l'interprétation, et en souligne ainsi la part de jouissance. Le laisser-faire de l'analyste n'est donc pas de l'ordre d'une passivité, mais plutôt une façon de prendre en compte cette jouissance qui insiste, résiste et distingue l'analysant. On a vu comment l'acte symptomatique avait besoin de l'interprétation de l'analyste pour accéder à un statut d'acte. Bon, voilà, je dis ça, mais finalement, l'interprétation peut se constater dans ses effets, c'est pas tout à fait juste ça. Bon, c'est elle qui peut le faire consister, donc c'est pas tout à fait juste non plus, et c'est dans ses effets, voilà, incalculables, que l'analysant peut en mesurer la portée. Ouf. Enfin, c'est ainsi que je tente de comprendre le rapport établi par Lacan entre symptômes et actes. J'ajouterai une question à cette réflexion. La démission de l'acte de l'analysant, évoquée précédemment, tient-elle au fait qu'il n'est d'acte que d'un « je ne pense pas » Donc c'est une question. Je souhaiterais revenir sur ce que j'ai évoqué au début de cette contribution concernant l'enseignement de la psychanalyse et interroger ce qui a amené Lacan à utiliser le terme d'analysant aussi dans ce cadre-là. En 1967, quand il introduit ce signifiant, il est manifestement très préoccupé par l'enseignement de la psychanalyse et par la formation des analystes. Bon, pas uniquement à cette période-là, mais ça a duré tout son enseignement. Est-ce possible d'enseigner la psychanalyse, où et de quelle place ? Dans le séminaire « L'acte psychanalytique », Lacan revient à différents moments sur ce que les analystes pourraient transmettre de leur expérience, insiste sur la pertinence de cette transmission et juge leur production insuffisante. Dans la proposition du 9 octobre 67 sur le psychanalyse de l'école, écrit contemporain de ce séminaire, il y est question de produire un pas constructif. Et Lacan invite les analystes à produire l'appareil de l'école avec notamment le dispositif de la passe. C'est une façon d'interroger le désir de l'analyste et son désir d'engagement dans une école. Interroger, c'est mettre au débat, offrir la possibilité d'une prise de parole, d'un écrit, d'une production. Avec l'idée de production dans le cadre d'une école de psychanalyse, on retrouve celle de l'analysant enseignant la psychanalyse. On pourrait être troublé par une certaine analogie des termes qu'emploie Lacan pour parler, définir, pour parler des analysants et des analystes. J'avoue l'avoir été en travaillant le thème de ce séminaire. Un effort est nécessaire pour comprendre ce qui revient à chacun des termes. La différence est pourtant là, mais il s'agit de la démontrer. Il me semble que ce qui est en jeu ici est de l'ordre d'une éthique de la psychanalyse, celle d'un bien-dire que chacun traite comme il peut, avec son manque, son inconscient qui le travaille à travers ses symptômes, ce qui insiste de jouissance. Chaque production suscite cette question portant sur quoi dire et comment. Elle convoque la dimension du désir et celui-ci ne se calcule pas. Il se constate dans ses productions au sein d'une école de psychanalyse ou en dehors dans notre quotidien. Il est vivant, donc l'objet d'une certaine variation propre à chacun. Envisager d'enseigner la psychanalyse à l'université, comme l'a fait Lacan, rencontre cette difficulté d'un bien-dire, d'autant plus qu'il domine souvent le discours du maître, alors que Lacan, enseignant, a voulu s'en démarquer. À son auditoire, ne disait-il pas « Nous ne sommes pas sur le plan des prestations de services universitaires. Je ne peux rien vous apporter en échange de votre présence. Ce qui vous amuse, c'est que vous sentez bien qu'il se passe quelque chose ici. » Alors, que se passe-t-il ? Néanmoins, dans un texte de 1975, intitulé peut-être à Vincennes, point de suspension, il propose un programme en quatre points : linguistique, logique, topologie, antiphilosophie, dont il précise les termes. Je vous renvoie au texte. Préciser les termes me semble relever d'une éthique d'un bien-dire. Lacan s'y est employé, nous laissant un enseignement que nous tentons de redéfinir, de comprendre et surtout d'élaborer, chacun différemment, mais aussi avec quelques autres. Il me semble que dans ses propositions, formules et inventions, telles que le terme d'analysant, il y avait une recherche toujours plus poussée de ce qui nous anime, au-delà du sens, soit un réel. Sachons y faire, tâchons d'être inventifs, dont acte.
Merci.